Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Vous écoutez en rediffusion Le Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
J'en parlais avec Dr. Cécile Rousseau tantôt de ces masculinistes, des influenceurs qui disent aux gars, c'est comme ça qu'il faut se comporter avec les femmes, et là, ils donnent des conseils. Et la semaine passée, il y a un extrait d'un podcast masculiniste animé par deux gars au Québec qui est devenu viral, qui a beaucoup fait jaser. Je vais vous faire écouter un court extrait, ça donne le ton.
Tu laisses pas ta blonde sortir d'un club, tu laisses pas ta blonde aller dans un festival.
Et je poursuis, tu laisses pas ta blonde poser en G-string sur Instagram, puis tu lui demandes le code du téléphone pour voir avec qui elle ose parler si elle parle avec d'autres gars. Il y a eu beaucoup de parodies de ça sur Internet, dans l'humour québécois. Je suis très content d'accueillir Pascal Marino, qui est humoriste et comédienne, elle est en studio, et Magali Saint-Vincent, humoriste et comédienne, elle est au téléphone parce qu'elle est à Québec. Bonjour, mesdames.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
On va présenter un extrait du podcast que vous avez fait. C'est une parodie. Mm-hmm. Vous êtes deux filles qui parlez de contrôler vos chums, une sorte de, on va inverser le bas de la du masculinisme, disons ça comme ça. C'est très savoureux, on l'écoute.
Mon chum, je le laisse pas aller au gym tout seul, je le laisse pas aller au Oktoberfest, je le laisse pas conduire. Il y a trop de chances qu'il se fasse arrêter par une femme police.
Mais oui.
Ça peut être vraiment une incitation sexuelle. Et les femmes policières, c'est des cochons. Tous. Je vais juste pour la protection de mon chum, pas comme l'exposer à une chance qu'il se fasse arrêter par une femme police.
Ouais. Mais mon chum pis moi, on passe jamais sur la métropolitaine ensemble parce que à Mané, il y a comme l'entrepôt de la vie en rose pis une femme en gros plan, en bikini, tu sais. Pis mon chum, il a des instincts.
Nos chums, c'est des loups-garous. Genre, cette affiche-là, la madame en sous-vêtement, c'est comme une pleine lune.
C'est ça. Il va sur la métropolitaine.
C'est pas du contrôle. J'avais mis ces limites-là au clair.
S'il y a des limites, c'est pas du contrôle.
C'est vraiment bien dit.
Si c'est des limites, c'est pas du contrôle. Magali Saint-Vincent, d'abord, comment est venue l'idée? Comment sont venus les flashs?
Ben, en fait, c'est Pascal qui a eu l'idée de base de parodier ce podcast-là. C'est sûr qu'on est deux humoristes qui parlent beaucoup de féminisme dans nos dans notre stand-up. Puis on est comédiennes, on se connaît depuis une quinzaine d'années, donc c'est sûr que on est habitués de travailler ensemble. Et ben c'est ça, c'est Pascal en fait qui m'a dit viens en studio, on va les parodier. Puis ça a quand même très très bien marché.
Pascal, est-ce qu'il y avait un texte ou vous l'avez improvisé?
On s'est fait un petit appel pour un peu enligner vers quoi on qu'est-ce qu'on voulait nommer de ça, c'était quoi notre objectif, mais au final, on est arrivé en studio, là, pas de texte, puis on s'est juste amusé à dire...
Très belle improvisation, les filles, ça a vraiment fonctionné. L'objectif, c'était quoi, Pascal?
En fait, c'est que ma première réaction, quand moi j'ai vu les premières vidéos des extraits du podcast dont on faisait mention plus tôt, moi je suis partie à rire, puis j'étais comme, excellente parodie, les gars, de toutes les Andrew Tate, de ce j'étais persuadée que c'était une joke. Je me dis, ça se peut pas.
Tu pensais pas qu'ils étaient sérieux?
Je me disais, ça se peut pas. Il y a une part de moi qui essayait de se convaincre encore aujourd'hui. Je me dis.
Qui vont arriver, ils vont dire, c'est une blague.
Hey, bonjour, on est deux profs de sociaux. Puis c'est vraiment une joke, là, tu sais. Et donc, quand j'ai commencé à fouiller davantage, à voir que, ben, ils ont eu aussi des tribunes pour expliquer leur démarche et que c'est encore plus outrageux, qu'est-ce qui sort de cette démarche-là. Là, je me suis dit, OK, non, on fait de quoi avec ça? Ça n'a pas de sens.
Okay.
C'est ça la base.
Magali Saint-Vincent, vous, ta première réaction, je vais passer au-dessus, ta première réaction, ça a été quoi quand t'as vu qu'ils étaient sérieux?
Ben, ma première réaction, c'est évidemment de trouver ça épouvantable. Là. Sincèrement, je pense que Pascal puis moi, où ça réussit peut-être ce qu'on fait, c'est que ça montre justement ce double standard-là. Tu sais, on dirait que c'est pas si épouvantable que ça. Certains discours masculinistes, parce que c'est des hommes qui le disent, mais dès qu'on renverse les rôles, dès qu'on se met dans la peau de ce discours-là, on se rend compte que c'est un discours qui est basé sur seulement des peurs et de l'agressivité et de l'ego. Puis je pense que Pascal puis moi, on a bien dénoncé ça par par l'humour, comme on le fait dans nos travaux respectifs.
Pascal, j'ai envie de demander, est-ce que... je sais que les gens qui suivent ce genre d'influenceurs-là peuvent être, disons, assez acharnés. Quel genre de réaction t'as eu?
Ben, on a eu de toutes sortes. C'est sûr que... Il y a beaucoup de gens qui ont la référence quand même, qui ont compris le niveau, l'absurdité. Mais on était très consciente qu'en mettant sur Internet ce genre de propos-là, que c'est pas tout le monde qui allait saisir le degré de satire et qu'on allait s'attirer de bonnes insultes. Là.
Fait qu'il y en a eu.
Ah oui, oui, c'est sûr. Là.
Donc, ce sont des gourous, Magali, ces gars-là, dans le fond, là.
Ben absolument, c'est des gourous d'une certaine... J'imagine que ça parle à certaines personnes, je sais pas à qui, là, mais j'imagine que ça parle à des gens. Mais nous c'est sûr qu'on n'est on est pas confrontés à ce discours-là dans nos vies parce qu'on est entourés de bonnes personnes, j'imagine, là, mais... Mais ouais, ça parle à des gens, ce qui est inquiétant. Donc, je suis contente que notre humour puisse parler des fois défaire, déconstruire. Il y a des gens qui ont compris qu'il y avait un degré plus tard, tu sais, puis qui ont vu que par notre podcast, que le Lucide podcast n'avait pas vraiment de sens, tu sais, puis ça, ben, je pense que c'est là où Pascal puis moi, on a peut-être réussi à éduquer par l'humour.
Pascal Marino, il y a quand même une ligne qui est fine, et docteur Cécile Rousseau en parlait tantôt. Si on rit des gens qui suivent ce genre de propos-là d'influenceurs, on risque de les humilier puis de les radicaliser encore plus. Est-ce que c'était votre intention de rire de ces gens-là?
Ben absolument pas. On sait très bien qu'il y a de la manipulation, qu'on peut trouver justement des discours dans lesquels on se sent interpellé. Et notre but, c'est pas de ridiculiser quelqu'un qui serait perdu puis qui s'accrocherait à un type de messages. Par contre, ceux qui en font la propagande, la promotion, même la marchandisation et qui prônent que ça prend un contexte, là, puis que le contexte, c'est jamais, dans le fond, l'extrait, c'est jamais un bon contexte. Oui, mais c'est ton extrait que tu as choisi. C'est des propos qui sont violents. Alors, moi, ce que je préfère, ce dont je me moque, c'est plus de cette décision-là plutôt que de gens qui pourraient écouter ça. C'était ça notre objectif. Okay. C'est pour ça qu'on l'a transformé dans une parodie du podcast.
Magali Saint-Vincent, les gars de ce podcast-là parlent de leur blonde. Je pense même qu'il y en a une des conjointes qui arrive, qui sont, on appelle ça des épouses traditionnelles, tu sais, qui acceptent d'être dans ce genre de relation-là.
Dans le rôle féminin,
exact. Comme si on était en 64. Dans votre entourage, en connaissez-vous des filles comme ça qui veulent ça?
Non, mais c'est pas parce qu'il y en a pas dans mon entourage que ça n'existe pas là. Pascal et moi, on est en art, on est en culture, on est entouré d'humoristes. En général, je sais pas si vous êtes au courant, mais les humoristes, c'est dur un peu de se mettre dans des rôles traditionnels, surtout étant femme. Donc c'est pas quelque chose que je côtoie vraiment, mais je sais que ça existe. Si je fouille un peu dans mon Facebook puis que je regarde, tu sais, moi, je viens de banlieue, oui, je le vois le retour aux rôles traditionnels, tu sais, puis. Je veux pas juger aucune fille qui désire ça. Je veux juste qu'elle ait le libre arbitre sur ses décisions, par contre, puis qu'elle soit pas en train de faire ça pour un gars. C'est la seule raison pour laquelle je continue de me battre.
Pascal Marino et Magali Saint-Vincent, je veux vous faire écouter, on approche de la fin du segment, là, un extrait d'un podcast de Arnaud Soli, en fait, une vidéo qu'il a faite lui aussi pour parodier ses masculinistes.
Tu laisses pas ta blonde aller à l'épicerie. Tu laisses pas ta blonde avoir un emploi. Tu laisses pas ta blonde parler à sa famille, à ses amis. Mais des fois, tu peux mettre un petit bol d'eau dans sa cage.
Et là, il y a une photo de la cage.
Ben, c'est une image qui est très éloquente, là.
Allez-y, Magali.
On dirait quasiment, en fait, une publicité sur la violence conjugale. Tu sais, moi, là, j'ai pas l'image, je l'écoute audio, puis on dirait que, tu sais, ce que Arnaud dénonce, ça va encore plus loin, là, tu sais. Si on fait pas attention à ce genre de discours-là, le vrai discours, là, je parle pas de nos parodies, là, tu sais, il y a des dérives, là, à ce genre de propos. Faut faire attention, surtout avec le nombre de féminicides annuellement qu'on a au Québec, je pense.
Pascal Marino, on va terminer avec vous. Rapidement, vous m'avez dit que c'était violent tantôt, ce propos-là. Qu'est-ce qui est violent?
Ben, c'est le contrôle. C'est ça qu'on faut. Ce que j'entends, moi, c'est une quête de contrôle, de pouvoir. C'est par là que entre la violence.
Merci beaucoup, Pascal Marino et Magali Saint-Vincent. Et si vous avez des chums, n'oubliez pas de donner vos codes de téléphone. Okay?
Jamais.
Merci à vous deux.
Merci.
Félicitations, c'était très drôle.
Vous écoutez en rediffusion Le Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
C'est jour de budget à Ottawa. Vous avez sans doute vu ça dans les nouvelles. Et notre ami Pierre-Yves McSween était au huis clos à Ottawa. C'est quoi le huis clos? Ben, il y a des gens comme lui, des chroniqueurs, des journalistes, des économistes, etc., qui sont là, qui peuvent décortiquer le budget. C'est un document qui est volumineux. Et là, ils ont accès aux élus, ils ont accès aux fonctionnaires pour poser des questions, pour bien comprendre. Et Pierre-Yves a pu poser une question à la ministre des Finances. On va l'écouter.
Les mesures pour encourager les jeunes à acheter des résidences. Vous dites qu'on manque de Maisons Canada, mais autant le CELIAP que l'augmentation du RAP contribuent à faire une pression à la hausse sur les prix. Est-ce que c'est une mesure qui aide vraiment les Canadiens à moyen terme ou c'est beaucoup plus une mesure électorale?
Et vous avez raison que la chose la plus importante pour nous, c'est de construire, construire, construire.
As-tu une réponse à ta question, Pierre-Yves?
Ben, elle a dit qu'il fallait construire, donc je l'avais dit qu'il fallait imprimer des logements. Ben, ils ont imprimé de l'argent pour ça. Donc, ça respecte en gros la promesse, mais quand on pose une question à Mme Freeland, on sort la cassette et donc on n'a pas de réponse à la question, mais la réponse est très longue, donc j'étais déjà content de pouvoir avoir une réponse là-dessus.
Est-ce que la réponse t'a satisfait?
Non, parce que j'aurais aimé qu'elle me dise « En effet, notre mesure est antiproductive. Elle nuit évidemment à notre objectif d'équilibrer l'offre et la demande. » À l'autre question que je lui ai posée en lui disant « Écoutez, là, vous parlez de gains en capital qui va être imposable davantage pour taxer les plus riches. » Je lui donne un contre-exemple et elle me dit « Ouais, mais vous saviez que le gain en capital existait avant. » Puis là, bon, je respecte la ligne politique. Il en demeure pas moins que si un couple vend un immeuble à revenu de 1 million de dollars et le gain est en haut de 500 000, ça veut dire que chacune des personnes aura plus que 250 000 de gains en capital et donc l'impôt sera plus grand parfois pour des familles qui ne sont pas jugées très riches au Canada, mais qui auront fait un coup d'argent une fois.
OK, parle-nous du déficit. Là, ça frappe quand même l'imaginaire. C'est dans les eaux de ce qu'on avait escompté, là, un peu sous la barre des 40 milliards.
En dessous des 40 milliards pour faire beau, mais ça pourrait monter à 48 milliards si on avait des réalités pessimistes et peut-être 52 milliards l'année prochaine. Chose certaine, Patrick, c'est qu'on a fait le choix d'investir dans l'économie pour être capable de développer des logements et donc on va maintenir un déficit entre 40 et 20 milliards sur 5 ans, même si les dépenses vont augmenter drastiquement. Les revenus budgétaires du gouvernement vont passer de 498 milliards à 586 milliards, mais malgré tout, on tient la ligne d'un déficit quand même qu'il faudra résorber éventuellement. On parle aussi beaucoup de ratio dette sur PIB qu'on essaie de contrôler, on parle de coût de la dette en fonction du PIB. Donc, on ramène beaucoup en proportion du G7 pour rendre ça acceptable. Mais la grande nouvelle, Patrick, j'étais dans le corridor et j'ai croisé un ancien associé de la firme où je travaillais et il m'a dit, Pierre-Yves, gain en capital, oui monsieur, on va aller chercher près de 7 milliards de dollars en impôts sur le revenu des particuliers et des sociétés communes en imposant le gain en capital. Et je précise que ça, dans les sociétés, ça veut dire dans les Inc, il n'y aura pas le fameux seuil de 250 000 avant d'augmenter l'inclusion du gain capital à 2/3. Ce sera à partir de 0$. Donc, si vous avez des placements dans des Inc, vous allez payer plus cher votre impôt sur vos gains quand vous allez vendre des titres ou des actifs.
OK. Pour toi, l'élément le plus important, là, je sais qu'il y a beaucoup de matières qui avaient déjà été révélées par le gouvernement Trudeau. C'est quoi l'élément le plus important?
Ben, il y a deux éléments. En fait, de trois, si tu veux. Oui, il y a tout ce qui a été dévoilé. Mais un, d'aller chercher l'impôt sur le gain en capital, Patrick, c'est tellement un élément sur lequel on reculait depuis plusieurs années. Je sais pas si tu te souviens, mon collègue Mathieu Locat nous en a parlé tantôt. Il nous parlait de l'époque que Pauline Marois avait voulu monter la taxation sur le gain en capital et on avait reculé. C'est très difficile. Et là, la question, c'est est-ce que François Legault va suivre? Parce que là, le fédéral, lui, ouvre la porte de faire la même chose au Québec. Il a l'air moins méchant quand le fédéral l'a déjà fait. Première affaire. Deuxième chose, écoute, on va vraiment faire du logement. On va commencer par prendre des terrains, par exemple, de Post Canada et dire, ce qu'on n'a pas besoin, on va construire là-dessus. On va prendre des immeubles du gouvernement fédéral. On va rationaliser ça, transférer possiblement des travailleurs et convertir des bureaux fédéraux en logements. Ça, c'est quand même majeur. On a identifié des bureaux précis. On marque dans le budget qu'au Québec, c'est 900 millions qui vont être donnés au Québec. Ben, arrangez-vous. On vous dit pas où régérer ça, mais le gouvernement du Québec doit agir et on a plusieurs autres mesures comme ça vraiment saupoudrées tellement que les journalistes, ben, jasaient off the record, puis on se dit, coudonc, le montant en milliards qu'on met, c'est combien? Parce qu'on additionne tellement de données. On dit, par exemple, qu'il y aura 3,9 millions de nouveaux logements d'ici 2031, 2 millions de logements nets venant s'ajouter aux 1,87 déjà. On parle même d'un investissement de 15 milliards supplémentaires, une portion probablement déjà annoncée, mais ça revient à 500 000 la porte. Donc, ça va pas juste être des petits logements, là. Si t'investis 15 milliards pour 30 000 nouveaux logements, ça revient à 500 000 la porte. Ça a marqué mon imaginaire. Et finalement, il y a plein d'autres petites mesures dont je peux te parler. Écoute, il y en a une qui me fait sourire. Est-ce que t'as déjà songé à être pompier volontaire, Patrick?
Non.
Mais savais-tu que le gouvernement fédéral, dans sa grande générosité sur un budget de plus de 400 milliards, qui frôle le 500 milliards, on s'est dit qu'un petit 900 piastres de plus pour les pompiers volontaires, ça allait tout changer. Et donc, on va reconnaître davantage les pompiers volontaires en leur donnant quelques dizaines de dollars en crédit d'impôt supplémentaire. On va aussi taxer davantage de 12 cents par dollar le vapotage, 4 dollars de plus sur la cartouche de cigarettes. On est ouvert à subventionner du transport en commun, mais sais-tu qu'est-ce qu'on fait?
On fait quoi?
On force les villes à éliminer les obligations d'avoir des stationnements dans un territoire déterminé. Ça veut dire que si tu vas avoir un tramway dans ta ville ou tu vas avoir un lien ou un transport en commun, va falloir que tu arrêtes de développer du stationnement obligatoire dans un rayon proche du transport en commun.
Qu'est-ce que tu veux dire
donc
par stationnement?
Donc, on veut comme forcer la main.
Qu'est-ce que tu veux dire, Pierre-Yves, par stationnement obligatoire?
Je te donne un exemple. T'as un promoteur immobilier qui se fait dire, d'accord, tu fais des tours à condo, mais ça te prend X stationnement. Là, va falloir enlever ces règlements-là d'avoir X stationnement par logement. Si vous êtes proche, par exemple, d'un REM qui va être financé par le fédéral ou d'un tramway qu'on verra peut-être à Gatineau ou à Québec éventuellement. Mais il y a plein d'autres choses intéressantes comme on va permettre d'amortir plus rapidement certains immeubles à revenus. Question que les revenus d'impôt qui sont sauvés comme ça reviennent plus rapidement dans les poches des promoteurs pour qu'ils recommencent à développer du logement. On parle beaucoup d'infrastructures autochtones, de préservation, de transfert d'argent là-dessus. On parle aussi, on va arrêter que les gens vendent leurs actifs ou transfèrent leurs actifs à leurs enfants ou à leurs conjoints, conjointes pour éviter des dettes fiscales. Donc, on met en place des pénalités très grandes pour toute tentative d'évitement de payer ses dettes fiscales en transférant ses actifs en les protégeant. On parle aussi de tout ce qui a déjà été annoncé, évidemment. On parle aussi que la TOU va recevoir d'argent, le Festival Transamérique, le Festival du Monde de Sherbrooke, le Festival des Traditions du Monde à Sherbrooke, puis le Vancouver Fringe Festival. Mais tu comprends qu'on soupoute des millions à gauche et à droite. On parle que ce que j'ai parlé des pompiers volontaires. Et on veut encourager, Patrick, nos athlètes à avoir des médailles olympiques. Donc, on a 35 millions de dollars supplémentaires, on sait pas comment. Puis, on veut taxer aussi les parkings. Tu sais, les terrains vacants, excuse-moi. Mais ça, pour les taxer, on nous dit pas comment. On dit, on va en jaser.
Ben, c'est pas la job des villes de faire ça.
Ben Patrick, l'ingérence, on peut se dire là, l'ingérence fédérale dans les champs de compétences provinciales, je te dirais que c'est le thème du budget. Le thème du budget, je l'ai dans les mains, là, c'est un gros document, ça dit une chance équitable pour chaque génération. J'aurais dit une intervention de gouvernement provincial dans chaque déclaration. C'est pas mal plus ça, mais quand même, faut le dire, il y a une chose qu'on peut saluer le gouvernement, on décide de bâtir, d'offrir de l'argent. Mais maintenant, c'est pas clair comment ça va être fait. C'est-tu des prêts? C'est-tu des baux de 99 ans? Est-ce que c'est des subventions? Est-ce que c'est des paiements d'immeubles? C'est-tu du logement subventionné? Qu'est-ce qu'on va faire à long terme? Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a de l'argent investi pour restructurer les immeubles du gouvernement du fédéral.
Je te laisse, Pierre-Yves, et je te souhaite une excellente fin de journée dans cette ville si excitante qu'est Ottawa.
Hey. Je vous dirai à tous, il faut vivre ça une fois dans sa vie de venir à Ottawa pour parler budget bien avant un show au Centre Bell.
Merci beaucoup, Pierre-Yves. Bon retour.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Vous écoutez en rediffusion Voici Patrick Lagacé.
C'était jour de budget hier et on est encore en train de le décortiquer. Notre ami McSween était là à Ottawa hier, va en parler encore une fois dans sa chronique. On commence à comprendre mieux, disons, l'interprétation de ce qui a été lancé hier par la ministre des Finances, Chrystia Freeland. On va parler de tout ça avec le député bloquiste de Mirabel et économiste Jean-Denis Garon. Monsieur Garon, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Je pense pouvoir me dire, sans me tromper, que vous n'avez pas aimé le budget.
Ben, on a déjà annoncé qu'on votait contre le budget. C'est pas une surprise. De toute façon, c'était une espèce de striptease budgétaire, là. Depuis 3 semaines, ils l'ont effeuillé à grandeur. On n'avait plus beaucoup de surprises dedans. Et c'est un budget qui est sous le signe des intrusions dans les compétences du Québec, intrusions en santé, intrusions en logement. Ils vont même, M. Lagacé, jusqu'à dire à Hydro-Québec comment tarifier l'électricité. Intrusion dans la taxation foncière. Alors, vous comprendrez que dans l'optique d'offrir des meilleurs services aux Québécois de la façon la plus efficace possible, au coût le plus bas possible, on peut pas demander à un bloquiste de voter pour ça. Nous, on n'est pas le NPD, on fait pas de faux suspense, on va voter contre.
OK, alors on va décortiquer tout ça, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que Mme Freeland avait à dire à Hydro? J'ai raté ça.
Ben c'est parce que l'année dernière, le gouvernement avait établi une nouvelle subvention pour l'énergie propre. Typiquement, le Québec est désavantagé par ça parce que les sociétés d'État qui fournissent l'énergie, comme Hydro-Québec, qui on s'entend un fleuron au Québec qui est gigantesque, ben typiquement dans ces subventions-là, les sociétés d'État des provinces étaient exclues. L'an dernier, on nous a dit elles seront incluses, elles pourront avoir les subventions, mais cette année, on met les conditions. Et ce qu'on dit, par exemple, c'est que si Hydro-Québec a une subvention pour, par exemple, des projets d'éoliennes d'énergie propre, on s'entend que 100% de notre énergie est propre au Québec, alors il y aura une condition à l'effet que le Québec devra absolument faire en sorte que la subvention se transpose en baisse de prix sur la facture des Québécois. Mais la situation du Québec, un, c'est pas des affaires d'Ottawa, mais deux, la situation du Québec est particulière parce qu'on paie les prix les plus bas en Amérique du Nord pour l'électricité, parmi les prix les plus bas au monde. On a un bloc patrimonial qui est absolument unique. Alors, c'est encore une façon de enfin, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais c'est clairement dysfonctionnel. Je peux même pas m'imaginer, moi, tu sais, qui connais assez bien le fonctionnement du marché énergétique au Québec, comment ça pourrait être applicable.
Expliquez-moi.
Alors, c'est une façon d'exclure le Québec sans l'exclure.
Expliquez-moi comment Ottawa est en train de dicter la taxation foncière dans les villes.
Ben, c'est par exemple, le gouvernement a décidé qu'il se lançait dans la construction de logements pour étudiants. Et pour ce faire, ce qu'ils font, entre autres choses, là, c'est qu'ils établissent un périmètre autour des établissements scolaires pour lesquels il va devoir y avoir des changements de zonage pour que les villes puissent se conformer aux politiques d'Ottawa pour avoir le financement. D'abord, ça, c'est une intrusion qui est directe. La deuxième chose, c'est la taxation sur les terrains vacants. Là. L'année dernière, on avait une nouvelle taxe sur les immeubles qui sont inoccupés par les municipalités, puis c'était la première fois dans toute l'histoire de la Confédération canadienne que le gouvernement fédéral allait s'ingérer dans la taxation foncière. Et cette taxe-là, elle fonctionne pas. Ils ont de la difficulté à l'appliquer parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure pour le faire. Les municipalités ont ça, le cadastre, c'est québécois. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait double down là-dessus, vous m'excuserez l'anglicisme, et on continue sur les terrains inoccupés. Alors, c'est une ingérence directement dans la taxation foncière. On peut être pour ou contre la mesure, là. Je dis pas nécessairement que c'est une mauvaise mesure. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est pas à Ottawa à faire ça.
J'allais vous demander, si on n'est pas là vraiment fasciné par les questions d'intrusion des compétences du fédéral dans les autres juridictions provinciales, municipales. Ben oui, on est une personne normale, OK? Mais c'est pas en soi mauvais ce qu'Ottawa essaye d'implanter comme changement, par exemple, sur la taxation foncière. Expliquez à quelqu'un qui n'est pas fasciné là par les questions d'intrusion fédérale dans les champs de compétences des provinces et des villes. Pourquoi est-ce qu'on devrait peut-être se battre dans les autobus pour ça?
Ben, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est, tout le monde trouve que c'est important la santé, l'éducation, le logement étudiant. Puis, ce sont des questions qui sont prioritaires pour les Québécois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que les Québécois aient les services le plus rapidement possible, de façon la plus efficace possible, avec le moins de conditions possible, avec le moins de délais administratifs possible. Et pour ça, il y a une solution, là. C'est de faire en sorte que le gouvernement, qui est le plus proche du terrain, le plus proche des gens, qui a l'expertise, qui gèrent des hôpitaux. Dans le cas du Québec, soit dit en passant, on est la seule province sur les 10 qui a des programmes permanents de construction de logements sociaux depuis plus de 30 ans. On est la seule. Alors, c'est de faire en sorte que ceux qui connaissent la façon de faire puissent le faire le plus rapidement possible. Puis, si vous me permettez, je vais vous donner un exemple. Un exemple d'intrusion comme ça dans un champ important que nuit au Québec. Il y a quelques années, le fédéral a mis en place ce qu'on appelait la stratégie nationale du logement. Alors, il y avait de l'argent pour le logement. Alors, pour les autres provinces, ça a bien été parce qu'ils n'ont pas de programme permanent de construction de logements sociaux. Pour le Québec, les conditions se sont multipliées. Et ça a fait en sorte qu'il fallait se conformer aux conditions et de Québec et d'Ottawa. Et le Québec a attendu presque 4 ans de plus que les autres provinces pour avoir l'argent. Et on s'est ramassé avec des projets qui attendent depuis à peu près, qui ont attendu, dans certains cas, 8 ans avant de pouvoir passer à la phase de construction. Puis ça, ben, ça se, la conséquence de ça direct, ben, c'est qu'on a des gens qui sont pas servis par le marché, qui ont besoin de HLM, puis qui présentement dorment dans leur auto. Puis ça, c'est la réalité des Québécois.
Je veux vous parler des hypothèques islamiques. C'est 400 pages, le budget. Il y a un petit passage sur les hypothèques islamiques là, qui permettent aux Canadiens de religion musulmane et aux membres d'autres communautés issus de la diversité, je cite, de participer davantage au marché de l'habitation. On dit que c'est un marché en plein essor. D'abord, c'est quoi l'hypothèque islamique?
Mais d'abord, là, on va juste s'entendre. Vous avez dit « issus de la diversité ». On parlerait de règles hypothécaires qui sont spécifiques pour une confession particulière. Dans la religion musulmane, si on se penche sur ces préceptes-là de façon très littérale, les musulmans, en principe, n'auraient pas le droit de payer d'intérêt. Alors, dans certains pays, il y a des marchés qui se sont développés avec toutes sortes de façons de faire qui sont différentes, où une tierce personne va acheter la maison, va faire des paiements et non des paiements d'intérêt, etc., etc. C'est une façon de faire qui est complètement différente. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai été choqué par ça pour la raison suivante. Moi, j'en ai une communauté musulmane, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, chez nous, des gens bien intégrés, qui parlent français, intégrés en emploi, qui ont acheté des maisons. Jamais une seule fois, on m'a approché pour me dire que c'était un enjeu puis que c'était important. C'est jamais arrivé. Et par ailleurs, au Québec, tu sais, au Québec, on a, je pense que c'est quand même une norme qui est établie qu'on ne modifie pas la loi pour une confession religieuse particulière. On a refusé l'application de certains préceptes de la charia en droit familial, par exemple. On se bat, on peut être pour ou contre, mais on se bat jusqu'en Cour suprême pour ça s'en vient pour la loi 21. Et là, on a un gouvernement fédéral qui nous dit qu'il est laïque et qu'en même temps, ils nous disent on va changer les règles bancaires, hypothécaires, de gestion du risque, la SCHL sur les cash down, sur le calcul du gain en capital, sur les transferts de propriété pour une confession particulière. Et moi, je trouve ça choquant qu'à un moment où on vit autant de crises présentement, autant de crises sociales dans le logement, en santé, en financement de la recherche universitaire, qu'on passe du temps à parler de ça alors que c'est absolument pas une demande de qui que ce soit dans nos communautés.
C'est ça. Surtout que dans cette communauté-là, ceux qui choisissent d'observer ces préceptes-là, semble-t-il, ils sont débrouillés pour contourner les obligations d'intérêt.
Bon. Ça, c'est un enjeu. Moi, je vais vous dire ce que vous savez déjà. La grande majorité, sinon la quasi-totalité des musulmans qui veulent s'acheter une maison, prennent leur argent, font un down payment, ils vont voir leur banque, ils achètent une maison. Moi, j'ai pas les chiffres. Je sais pas c'est quoi l'ampleur de ce marché-là, mais s'il existe un marché alternatif pour ça, parce que les grandes banques offrent pas ces produits-là, ils sont pas conformes aux lois canadiennes. S'il existe un marché alternatif avec des institutions qu'on ne connaît pas, on sait pas qui finance ça, dans quel pays, dans quel endroit, et que c'est un enjeu, il faut que les institutions de réglementation bancaire canadienne fassent en sorte d'interdire, et en tout cas, à tout le moins, d'encadrer et de documenter cette pratique-là, et non de s'y conformer. Parce que la question qui va être soulevée par la suite, c'est ça va être quoi la suite? On va modifier les lois pour quelle autre confession, quel autre groupe particulier? Et moi, que ce soit islamique ou autre chose, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on a un ensemble de lois, on a des lois bancaires, tout le monde doit s'y conformer. Et je le répète, je ne comprends pas l'importance de l'enjeu et je me permets de penser librement que si c'est pas une c'est pas dans les sensibilités multiculturalistes des libéraux. Je pense qu'il y a un aspect clientéliste là-dedans. Les libéraux ont baissé dans les sondages. Ils voient qu'ils sont en train de perdre dans certaines de ces communautés-là, notamment en banlieue de Toronto, et qu'il y a là-dedans du clientélisme politique. Et moi, je pense pas qu'on devrait instrumentaliser le système bancaire à des fins électorales.
En terminant, M. Garon, la dernière fois qu'on s'est parlé, là, vous m'aviez raconté, disons, une prise de bec que vous aviez eue avec un employé à l'aéroport Trudeau qui voulait pas vous parler en français puis qui vous avait un peu brassé parce que vous exigiez de vous faire parler français. Je voulais savoir, avez-vous vu cette nouvelle d'Hélène Buzetti, la journaliste qui est basée à Ottawa, qui dit que Gabriel Attal, le premier ministre français, a rencontré la gouverneure générale, Mme Simon, et ça s'est passé en anglais parce qu'elle parle toujours pas français?
Je ne sais pas quoi vous répondre, à part que je ne suis pas surpris. Puis, tu sais, vous avez parlé tantôt, si on parlait des ingérences, c'est pas dans le quotidien des gens. Moi, je vous réponds, oui, c'est dans le quotidien des gens. C'est juste que c'est instrumentalisé, on s'en rend pas compte. Le français, c'est notre langue nationale, c'est la langue qu'on parle, c'est celle qui nous permet de vivre collectivement ensemble et est bafouée à chaque jour. Ici, dans la capitale fédérale, nous, on le vit à chaque instant. Dès que les micros sont fermés, on nous dit « speak English ». Je suis absolument pas surpris de ça. Et nous, on a passablement critiqué la nomination d'une gouverneure générale qui ne parle pas français. C'est une gouverneure générale autochtone, c'est une bonne chose, mais le fait de ne pas parler l'une des deux langues fondatrices de la Fédération canadienne, c'est en soi un déni aux droits des francophones, et c'est très, très malheureux que ce soit la carte de visite que le gouvernement fédéral ait laissée au premier ministre français.
Merci beaucoup, M. Garon. Bonne journée.
Plaisir, pareillement.
C'était le député bloquiste de Mirabel et économiste Jean-Denis Garon.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Vous écoutez, en rediffusion, Le Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Christian Dubé, ministre de la Santé, il est en studio. Monsieur Dubé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en chicane avec les médecins omnipraticiens?
Non, pas vraiment.
Je pense que oui, ça ressemble à ça.
Je dirais plutôt qu'on est en négociation.
Mais, qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a question d'une prime qui va tomber et là, il y aurait 900 000 Québécois qui seraient à risque de pas avoir accès à leur médecin.
Ben, ce soir, ce que je vais faire, M. Lagacé, avec vous, là, puis j'ai fait ça toute la journée, c'est de rassurer les Québécois que le gap est là pour rester. Le fameux guichet qu'on a mis en place qui est pas parfait encore, mais qui s'améliore à tous les jours. Les Québécois y ont goûté. Il y a 900 000 Québécois qui ont goûté au fait qu'il y a quelques années, ils savaient pas où appeler, il y avait pas de service. Ils ont été capables d'avoir un contact avec un professionnel. Bon, maintenant, c'est sûr que on avait prévu il y a 2 ans que cette entente-là finissait en mai 2024. C'est pas une surprise pour personne d'arriver puis de dire qu'on veut déchirer l'entente. C'est pour ça que j'ai décidé, moi aussi, d'aller sur la place publique, parce que ces négociations-là, quand il y a des négociations, ça devrait rester en dehors de l'espace public. Alors, comme il s'est dit des choses qu'on voulait déchirer une entente, écoutez, on n'est pas là du tout. Moi, il y a tellement de bénéfices avec ça, avec ce service-là, qu'il faut qu'il soit maintenu. Maintenant, il y a des négociations. On a maintenant des données sur ce qui est arrivé au cours des 2 dernières années. Il est tout à fait normal que le gouvernement dise « Est-ce qu'il y a des modifications à faire? » La réponse est oui. Le système est loin d'être parfait. Alors donc, moi, je regarde ça comme n'importe quel autre dossier. Je m'assois avec la FMOQ, puis on peut-tu en parler pour discuter, mais pas sur la place publique. Parce que les Québécois, la dernière chose qu'ils ont besoin de se faire dire, c'est quelque chose qui commence à bien fonctionner devrait être arrêté. C'est pas ça l'objectif.
Bon, le gap, là, ça a été créé en 2022. Il y a une nouvelle dans la presse qui est sortie cet après-midi qui concerne le gap, justement. Là. Il semble que la moitié des patients inscrits à un GMF, grâce à cet outil, n'ont pas obtenu de rendez-vous médical dans les 2 dernières années. Tu sais, je comprends le tableau de bord, je comprends le nouvel outil, mais savez-vous quoi? J'ai l'impression que
dans les statistiques, on dit que les Québécois ont finalement accès à un médecin de famille, mais d'y avoir accès dans le réel, c'est deux affaires complètement différentes.
Il y avait trois objectifs dans l'entente qu'on a signée en 2022. Trois objectifs. Un, de prendre les patients puis de les sortir de la liste d'attente, premièrement. Deuxièmement, on a dit, il va falloir qu'il y ait un rendez-vous, OK, au moins une fois par année, parce que des gens qui faisaient 6 ans qu'ils n'avaient pas vu un médecin, ça, c'est le deuxième objectif. Donc, de rendre des rendez-vous disponibles. S'il y a 900 000 rendez-vous. OK? Facile. Mais troisièmement, les patients doivent être vus dans un délai de 36 heures quand le type de rendez-vous l'exige.
Mais on est loin de ça, là. Ben je veux dire, c'est pas une garantie, là. Quiconque va sur les plateformes vers lesquelles vous nous dirigez n'a pas une garantie de service comme ça.
Regardez, j'ai publié, là, dans... Vous parlez des tableaux de bord. Le temps d'attente pour avoir un rendez-vous là, depuis 3 mois, là, au fur et à mesure que le gap s'améliore, il s'est réduit de moitié. J'ai publié sur les réseaux sociaux cette semaine pour expliquer ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, je dis, avant de renégocier une nouvelle entente, une nouvelle mouture du gap, j'ai besoin d'avoir des données. Je les ai maintenant avant. Une des raisons pour laquelle ça a été un peu difficile, je vais le dire comme ça, avec les médecins de famille, c'est qu'on n'était pas capable d'avoir accès aux 600 cliniques, là, les 600 GMF, de combien de prises en charge faisaient, dans quel délai. Tout ce que vient de... J'ai accès maintenant à cette information-là. Alors, il est tout à fait normal qu'on se dise, écoutez, on a mis beaucoup d'argent là-dedans, on est-tu capable de voir qu'on s'en va dans la bonne direction?
Je croule sous les messages du public aujourd'hui. Pas chaque jour, mais très, très souvent. Dans mon entourage, cette semaine, M. Dubé, j'ai eu une discussion avec une proche qui n'a pas de médecin de famille, qui attend le message, et là, elle considère d'aller au privé. Pourquoi est-ce que le gouvernement paye pas ma consultation au privé quand je suis pas capable d'avoir un rendez-vous au public?
Quand j'ai fait mon fameux projet de loi 15 l'an dernier, là, vous en avez entendu assez parler,
oui.
C'est exactement ce que j'ai dit. Quand je vais être capable d'avoir les données que je vous dis que je viens d'avoir, là, que je viens de les avoir, quand un rendez-vous ne sera pas pris dans des délais raisonnables, les gens vont pouvoir aller au privé. Mais ça vient d'être voté, ça, là. Alors, tous ces changements-là qu'on est en train de faire vont permettre d'avoir ces changements-là de comportement. Je vous dirais
non,
une chose...
Non, mais vous répondez pas à ma question.
Oui, je
présentement,
réponds.
Non, présentement, là... Disons que quelqu'un qui nous écoute, là, est obligé là, de prendre un rendez-vous dans une clinique privée puis de payer, ça peut être très cher, là, une consultation, là, ça peut aller jusqu'à 200$. Tu as besoin d'une référence, tu as besoin, t'as mal à la tête, tu as mal au ventre, faut que tu payes. Parce que quand tu vas dans les plateformes, tu n'en trouves pas de rendez-vous. Pourquoi est-ce que vous me remboursez pas le 200$ pour la consultation si vous n'êtes pas capable de me donner le rendez-vous public?
Monsieur Lagacé, ce que je vous dis, c'est que dans le projet de loi qu'on a déposé, qui est maintenant voté, puis il reste juste les règlements à faire, on va avoir l'obligation de faire ça.
En combien de temps?
Ben, dans un délai raisonnable. Si vous,
c'est quoi raisonnable?
Tantôt, je vous ai dit, là, vous appelez. Vous voulez avoir, par exemple, un examen annuel. Ça n'a pas besoin d'être dans 36 heures. On s'entend, un examen annuel, vous pouvez dire, on m'a donné le rendez-vous dans 3 semaines, c'est correct. Vous avez un gros mal de ventre, ben ça doit être au moins à l'intérieur de 36 heures. Ce que je vous dis, c'est que ça, c'est possible maintenant. Ce que j'avais besoin, c'est d'avoir les données dont je suis tenant avec ça, là. Mais il n'y a jamais eu cette information-là dans le réseau. On l'a maintenant. Alors, on va être capable d'agir. Et c'est pour ça que je dis aux médecins, maintenant qu'on a ces informations-là, moi, je suis prêt à donner plus d'argent, mais je vais avoir plus d'accès. C'est ça qui est important.
T'sais, vous me dites que c'est un délai raisonnable. Présentement, là, ce que vous me dites là, je trouve que c'est très théorique. Puis je sais que vous êtes un gars de terrain, là, mais il y a trop de gens dans mon entourage, il y a trop de gens qui m'écrivent, que ce soit pour des spécialistes ou que ce soit pour des médecins omnipraticiens, ils sont pas capables d'avoir de rendez-vous. Puis je comprends là que ça s'en vient, puis le projet de loi, puis je comprends ouais, surtout. Mais puis je veux pas être méchant avec vous
non,
là.
Non, pas
mais
du tout,
regardez, je comprends que ça va peut-être s'arranger quand vous serez plus là.
Non. C'est en train de s'arranger. Regardez, Monsieur Lagacé, là, je vais être très clair. En ce moment, là, vous en entendez parler, moi je n'entends parler. Il y a seulement 10% des personnes, 10%, qui passent par le gap, qui sont pas capables d'avoir un rendez-vous dans un délai raisonnable. 10%. c'est sûr que c'est eux autres qu'on entend parler, puis avec raison.
Ben, mais tu sais, 10%, là, je m'excuse de vous interrompre, sur des centaines de milliers de personnes, ben oui, c'est beaucoup de monde.
Non, mais c'est exactement pour ça que je vous dis. Mais on a quand même réglé 90% depuis 2 ans. OK?
Oui.
Bon. Ce 10%-là, c'est sur ça que je travaille. Et c'est pour ça que je dis, si, par exemple, des médecins ont été payés pour prendre des gens en charge, mais qu'ils n'ont pas vu, on n'a pas atteint nos objectifs sur le 10% qui manque.
Ce que vous me dites, c'est que, OK, êtes-vous en train de me dire aussi que un jour, là, bientôt, là, si je suis obligé d'aller au privé pour voir un médecin parce que je peux pas le voir au public, vous allez me rembourser?
C'est dans la loi.
Même pour un omni?
Ben, on va voir comment. Ce qu'il faut définir, c'est quoi un délai raisonnable pour chacun des. Un remplacement de la hanche, ça peut être 9 mois.
Mais vous êtes le ministre. Pour vous, c'est quoi? OK, on va y aller. J'ai mal au ventre, là. Je sais pas ce que j'ai, là. Mm-hmm. Puis, faut que je voie un médecin. Parce que si je veux voir un spécialiste, faut que je voie un médecin omnipraticien. Pour vous, c'est quoi un délai raisonnable pour ça?
Quand vous remplissez maintenant le petit feuillet qu'on a fait pour le gap, là, on appelle ça le gap numérique, là, on définit à peu près une douzaine d'actes. Vous irez voir sur le site, là, une douzaine d'actes qui sont soit mineurs, moyens ou majeurs. Et ça, c'est sûr que les délais vont changer en fonction. Mais je pourrais vous dire que quelqu'un qui, après avoir parlé à l'infirmière, qui dit, moi, là, j'ai vraiment mal au ventre, on va lui donner ce rendez-vous-là dans le délai de 36 heures.
OK. Puis pour ce qui est des spécialistes maintenant.
Bon, OK.
Je vais vous donner un cas très, très précis.
Je suis
précis.
Content parce que là, si on règle les omnis, après mais ça, on règle les spécialistes.
Le temps qui m'est alloué n'est pas infini. Okay. Non, mais OK. Regardez, il y a une femme qui m'écrit, son fils étudiant en technique policière, se scrape l'épaule. Il a besoin d'une opération parce que si son épaule n'est pas optimale, il ne pourra jamais être en technique policière, devenir policier.
Bon,
là, il est sur la liste d'attente. Il ne sait pas quand il va passer. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Ça peut prendre des années. Elle peut même pas savoir il est où sa liste d'attente. Bon. Ça, c'est quoi le délai raisonnable avant que l'État paye pour la chirurgie au privé?
Moi, je vous dirais que ça va être 3 mois, 6 mois ou 9 mois, dépendamment de la gravité. En ce moment, regardez, là, des chirurgies en attente de plus qu'un an, là, j'en avais 24 000 il y a à peu près un an. On a réussi à baisser ça à 11 000. J'ai dit que d'ici la fin de 2024, il en resterait 2500. On est en train d'avancer là-dedans, M. Lagacé.
Mais j'ai pas l'impression qu'on avance. Il me semble qu'on est toujours dans les mêmes enjeux.
Non, c'est toujours les mêmes enjeux. Le point, c'est est-ce qu'on agit sur chacun? Moi, ce que je vous dis, et c'est pour ça que les tableaux de bord, j'y reviens souvent. Regardez dans le détail de ces tableaux-là, là, puis je parlais à une journaliste de la presse aujourd'hui qui fait le point sur les urgences, etc. C'est en train d'avancer. Moi, j'avais mis un horizon 2025. Retourner un bateau de 330 000 personnes, j'aimerais ça dire que ça se fait en 6 mois, mais c'est pas vrai. À date, en 2022, on a fait le plan. Horizon 2025, on est exactement à moitié chemin. Puis tous les changements que je vous parle avec les omnis, avec les syndicats, les conventions collectives, c'est tout en train d'avancer. Puis au fur et à mesure, on s'améliore. C'est ça que j'allais dire.
OK, puis est-ce qu'on va avoir un système de santé optimal quand vous allez être encore ministre ou si vous nous promettez ça après la fin de votre mandat? Parce que je suis pas sûr que vous allez vous représenter.
Ben ça, on en discutera dans les lieux. Mais ce que je vous dirais aujourd'hui, d'ici quelques semaines, on va avoir des belles annonces sur Santé Québec. Un nouveau...
Vous trouvez votre Top Gun?
C'est fait.
C'est fait.
C'est fait. On va l'annoncer dans les prochaines semaines. Puis, comme j'ai dit, on va avoir...
C'est quelqu'un qui est du milieu de la santé?
Je vais regarder ça pour les prochaines semaines. Mais ce que je vous dis, c'est que moi, je vais m'assurer, au cours des 2 prochaines années, que les gros changements qu'on est en train de faire, on vient d'en discuter un, le GAP, c'en est un, convention collective, les agences de placement. Moi, je me suis engagé envers le ou la nouvelle CEO que ces changements-là, je vais les mettre en place. Quand il y aura eu la nomination, puis qu'ils seront là depuis 2 ans, c'est ça qu'il faut s'assurer, de la pérennité de tous les changements qu'on a faits, pour s'assurer que à chaque année, on va continuer de s'améliorer.
Tu sais, quand je vous dis que j'ai pas l'impression que ça s'améliore, tu sais, ça fait quoi, 20 ans que je couvre l'actualité puis la santé, on revient toujours aux mêmes affaires. Il y a un monsieur qui s'appelle Normand Meunier. Il est apparu dans l'actualité, c'est une histoire pathétique, là, vous le savez. À l'hôpital de Saint-Jérôme, c'est un monsieur qui est paralysé. Il y a eu des plaies de lit tellement profondes, tellement graves, qu'il souffre maintenant en permanence. Parce qu'on lui a pas donné le matelas de compression qu'on appelle là, et il a demandé l'aide médicale à mourir. Question là-dessus.
L'enquête en est où? Y a-t-il quelqu'un qui va payer pour ça? Y a-t-il quelqu'un qui va avoir des conséquences? Parce que ce genre d'histoire-là, là, elle pourrait se passer en 96, elle pourrait se passer en 2004. Ouais. C'est pour ça que je vous dis que c'est comme si ça s'améliorait pas.
Ben, écoutez, je trouve ça inacceptable. Je l'ai dit la journée que j'ai appris ça. J'ai
mais c'en est où? Il doit y avoir une enquête?
Ben, oui, il y a une enquête qui est en train d'être faite. Puis s'il y a assez de faits clairs qu'il y a eu des manquements, faut travailler sur des faits, non? Ben, à ce moment, on ira peut-être plus loin dans une enquête externe, puis avec les mesures qui viennent avec ça. Mais je vous dirais, M. Lagacé, je me souviens parce que quand je suis allé à Tout le monde en parle à peu près à tous les ans, quand on parle des urgences, j'ai dit, écoutez, je vais être capable de vous prouver qu'on s'améliore. Je vais être capable de vous le prouver. Je répète que j'ai assez de support à l'intérieur du réseau, assez de support de la partie des Québécois que, oui, il y a encore des exceptions comme ça qui sont épouvantables, qui sont pas acceptables. Mais j'ai une équipe en ce moment, puis surtout avec la mise en place de nos gestionnaires de Santé Québec, là, d'avoir les meilleures pratiques dans tous les réseaux de santé, je pense qu'on est capable d'amener ça chez nous. Puis c'est ça qu'on est en train de faire.
Merci d'être venu nous voir, M. Dubé. Merci. C'était le ministre de la Santé, Christian Dubé.
Merci beaucoup.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.